notion dans, on peut dire dans les beaux-arts, puisque la thématique de l'émission est assez large, qui parle, elle parle à la fois de l'urbanisme, de l'architecture, mais aussi des objets et aussi des œuvres d'art, évidemment des œuvres d'art plastiques. Je ne me permettrai pas de rentrer dans des domaines aussi complexes que qui ne sont pas les miens, que la littérature ou la musique par exemple, ou la danse. Donc, restons dans notre domaine, on peut dire, des beaux-arts, et le sujet d'aujourd'hui, c'est une polémique actuelle qui ne porte pas sur des bâtiments, mais qui porte sur la bande dessinée. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'affaire Vivès. Alors, je résume, Bastien Vivès est un auteur assez jeune de bande dessinée, avec un graphisme tout à fait intéressant, original, en tout cas remarquable, au sens de pouvoir être remarqué et se différenciant des autres, ce qui est pas rien. Et cet auteur, il était prévu au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, il était prévu qu'une exposition lui soit consacrée. Alors, les ligues de vertu, entre guillemets, ont protesté parce que dans certaines de ces bandes dessinées, il avait fait quelques incursions dans des domaines, on peut dire, érotiques et plus ou moins défendus, et on l'a accusé de pédopornographie. Alors, ce n'était pas l'ouvrage entier, mais il y avait quelques images qui auraient pu être sujettes à caution. Alors, ce qui est évidemment grave, c'est qu'il n'y a pas eu la censure sur les produits dessinés, sur les productions dessinées, mais sur l'auteur lui-même et sur sa production en entier. Et donc, on a annulé, sous la menace de manifestation, l'exposition qui lui était consacrée. Et cela, effectivement, a posé des questions, des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre. Alors, il y a eu dans le monde, dans le monde du 27 janvier, une enseignante et chercheuse en esthétique et philosophie, en philosophie de l'art, pardon, et qui s'appelle Carole Talon-Hugon, et qui a fait part de, on peut dire, de sa position qui était justement contre l'auteur en question. Et il y a à l'opposé une défense et une attaque contre cette personne dans l'Express de cette semaine. Donc il s'agit de Peggy Sastre qui est journaliste, essayiste et aussi docteur en philosophie. Donc on a vraiment des personnes qui sont remarquables sur la spécialisation de l'esthétique et de la morale. Alors je vous cite d'une part la phrase qui a été la source du conflit entre ces deux dames, la valeur morale d'une œuvre fait partie de sa valeur artistique. Qu'une valeur morale positive augmente la valeur artistique, alors qu'une valeur morale négative la diminue. Alors, dans Peggy Sastre, donc, dans l'Express, elle écrit une phrase choc qui étale, mine de rien, l'attaque d'un principe parmi les plus fondamentaux de nos démocraties libérales, la défense de l'individu contre la tyrannie du groupe. Alors, je pense que c'est une discussion qui me paraît assez absurde, je dois vous dire, parce que, tout d'abord, la question de l'art et de la morale, je pense qu'il faut dissocier l'un de l'autre. L'art, la valeur artistique d'une œuvre ne dépend pas de l'intention de l'artiste, parce que l'intention, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et puis, au cours du temps, on a oublié quelles étaient, s'il y en avait eu, les intentions de l'artiste ou les intentions du commanditaire, et l'œuvre existe par elle-même. Alors, Le problème moral, évidemment, se pose. À la fois, la question de l'auteur et de son œuvre, vous savez que ça a été plusieurs fois l'objet de débats, notamment pour Céline, qui était une crapule, entre guillemets, dans la mesure où il était, on peut dire, néo-nazi, et il adhérait aux thèses nazies et à l'élimination de tous les juifs, et qu'il a écrit sur cela. Alors là, évidemment, on sort de la discussion sur la morale et l'esthétique, puisqu'il s'agit de l'œuvre elle-même qui est un pamphlet antisémite. Donc, il y a à la fois la position de la personne qui ne joue pas et qui participe à cela par ses amitiés et sa vie, et puis il y a le propos lui-même qui effectivement ne peut pas être considéré comme une œuvre d'art parce qu'avant d'être une œuvre d'art, il est un pamphlet et il est une position. Donc, on va mettre la littérature de côté et parler de ce qui était on peut dire, le sujet, c'est-à-dire une œuvre d'art. Il s'agissait, à l'occurrence, d'une bande dessinée. Alors, la solution la plus simple, ce n'est pas de censurer l'auteur, mais de censurer l'image. Et cela s'est fait on peut dire dans toute l'histoire, on a censuré certaines images. Voilà, donc on le sait, il y a l'histoire, tous les peintres ont fait des dessins érotiques, et ces dessins érotiques, évidemment, ne sont pas dans les livres d'enfants et dans les livres de classe. Donc, il y avait des cabinets secrets, l'enfer, pour les textes. Donc, tout cela me semble un débat totalement inutile. Surtout qu'il s'agit de non plus censurer une partie de l'œuvre ou une image, mais il s'agit de censurer une personne. Là, on rentre effectivement dans le danger actuel qui nous vient on peut dire, des USA, c'est-à-dire le cancel culture où on élimine la personne. Ça veut dire qu'on renvoie sous la pression d'étudiants extrémistes pour des questions d'homosexualité, de genre, enfin, disons de position par rapport à l'homosexualité, par rapport au genre, par rapport au féminisme, etc. Des professeurs qui traitent d'autres sujets, qui vont être, et même, on est arrivé à trouver une relation avec des professeurs de mathématiques et de sciences. Bon, on est là dans, je crois, dans le totalitarisme, dans l'absurdité la plus totale. Mais, évidemment, on s'éloigne du sujet. Revenons-en à ce qui me paraît être essentiel, c'est est-ce que la position morale d'une œuvre est nécessaire et lui ajoute de la valeur, et à l'inverse, ce manque de morale ou d'une morale qui serait, on peut dire, qui ne serait pas en rapport avec la morale du temps présent, serait à rejeter. Alors, la position de Madame Sastre, qui est à l'opposé, me paraît, quand elle parle des principes plus fondamentaux de la démocratie libérale, la défense de l'individu contre la tyrannie de groupe, là on passe dans quelque chose qui est un autre sujet également, et puisque elle oppose l'individu au groupe, et on peut dire dans sa position qu'elle développe tout le long de l'article, elle est une position, on peut dire, très contemporaine. C'est-à-dire l'artiste qui commente son œuvre et qui se pose à une espèce d'avant-garde morale, et aussi avec une vision qui est une vision romantique de l'artiste qui va puiser dans le 19e siècle, dans le 20e siècle, où l'artiste serait une vigie. Donc, elle cite dans ses propos qu'en fait, elle cite un auteur russe, il n'est de vraie littérature que produite non par des fonctionnaires bien pensants et zélés, mais par des fous, des ermites, des hérétiques, des hérétiques, des rêveurs, des rebelles et des sceptiques. Donc là, il y a cette position de l'artiste contemporain qui sort évidemment de la littérature et qui fait que on est les mutins de Panurge, pour reprendre une expression qui me paraît bien choisie, c'est-à-dire que on se pose dans une position de vigie révolutionnaire et quelque part d'une bien-pensance conforme. Donc aujourd'hui, il est vrai que l'art contemporain, il est par exemple connu de tous que aujourd'hui les expositions de peinture ou de sculpture se doivent d'être liées aux problématiques qui sont les problématiques écologistes qui sont dans l'air du temps. Donc c'est lié au climat, lié à la disparition des espèces et qui va être lié au problème de la planète. Donc il faut faire ses dévotions, on peut dire, comme il était avant dans la sphère religieuse. Donc on a une religion qui remplace l'autre. Mais le problème de la qualité de l'œuvre est indépendante de cela. Quand on voit les œuvres religieuses, que ce soit d'ailleurs musicales, qu'il s'agisse de la Passion selon saint Matthieu de Bach ou les messes de Mozart par rapport aux œuvres profanes, le jugement n'est pas sur la religion et la référence religieuse. Et il en est de même pour la sculpture, la peinture, et on a oublier, on peut dire, les intentions de l'artiste ou les intentions du commanditaire. Donc, ce sujet est très important et je vais prendre des exemples pour des cultures qui sont loin de la culture occidentale et qui va être, par exemple, la sculpture africaine. Alors, dans la sculpture africaine, on retrouve des thématiques qu'on retrouve dans toutes les sculptures, notamment de la mère et de l'enfant. Alors on appelle cela des nativités dans en Occident, puisque ça fait état la plupart du temps de la Vierge et de l'enfant Jésus-Christ qu'elle porte dans ses bras, et il y a d'innombrables tableaux qui représentent cela. Alors d'une manière générale, les maternités, on en retrouve aussi dans d'autres civilisations qui n'étaient pas justement ces civilisations chrétiennes. Alors on appelle toujours cela des maternités. Alors on peut trouver effectivement un côté moral, une mère qui allait son enfant ou qui le tient dans ses bras. C'est quelque chose qui est touchant, qui montre le lien de la mère et de l'enfant, et il y a, on peut dire, effectivement, ce côté moral. Alors il s'est trouvé que des chercheurs, des anthropologues, bien que ce ne soit pas une vérité, et commenter d'une manière différente des statues, notamment d'une ethnie qui s'appelle les Yombé, d'un peuple du Congo, et où on a une mère assise avec un enfant dans ses bras, et certains commentateurs ont dit « mais non, il ne s'agit pas d'une mère d'une nativité, d'une mère tenant son enfant avec amour, mais il s'agit d'un sacrifice, et en fait on présente l'enfant pour un sacrifice à des dieux ». Alors effectivement, on change totalement de sujet, mais tout ça, ce sont des interprétations, et rien ne change à la qualité de l'œuvre, que sa destination, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, on va oublier effectivement une grande partie de la religion, de la religion catholique, puisque c'est elle qui représente ces scènes, et on ne regardera la beauté de l'œuvre, et en second plan passera l'intention et l'intention morale. Donc nous allons marquer une pause musicale et nous allons reprendre ensuite ce débat.
Et... lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Keep me safe, safe and sound.
Parlez donc de cette attitude déclarative, ou alors il faut être aujourd'hui plus vert que vert, et les œuvres d'art aujourd'hui et les expositions portent cette thématique. Donc le milliardaire Pinault, on a l'impression qu'il s'agit certainement d'une sorte de pénitence par rapport à justement à sa fortune et où il a, comme vous le savez, réaménager la Bourse du commerce à Paris en musée. Et donc, il ouvre une exposition actuellement avec des jeunes artistes. Et ces jeunes artistes, effectivement, ils sont dans le vent actuel et ils font ce que on leur demande. C'est-à-dire, on fait des œuvres qui sont dévolues à, on peut dire, l'idéologie verte, et donc on doit faire une sorte de, comme je vous disais, de pénitence. Tout ça me semble assez dérisoire, et justement le discours remplace l'œuvre. Alors il y a une sociologue qui s'appelle Nathalie Heinisch, sociologue spécialisée dans l'art, qui faisait, je crois qu'on peut le retrouver sur YouTube, une historique des mouvements d'art contemporain, et positionnait l'art contemporain, et puis évidemment, il n'y avait aucune critique dans cela, je pense même qu'elle trouvait ça très bien, où l'œuvre disparaît au profit du discours de l'artiste, c'est-à-dire que c'est l'artiste qui présente son œuvre, et quelque part, ben, l'œuvre c'est quelque chose de secondaire, puisque ce qui compte, c'est le discours. Alors, on va revenir à notre sujet central qui est l'architecture, et je me permettrai aussi de penser qu'aujourd'hui l'architecture est avant tout un discours vendeur, on peut dire préalable, où un bâtiment se doit d'être, c'est le thème, vertueux, donc il doit être vertueux et il doit correspondre à des critères pour respecter l'environnement, sauver la planète, sauver l'humanité, comme dit Madame Hidalgo. Alors, le problème, c'est que les bâtiments viennent après, et le discours qui permet d'accéder à la commande, à la critique, bah on oublie quelle est la réalité d'un bâtiment. Alors un logement, il doit loger des gens. Un bâtiment d'école, par exemple, il doit faire que les enseignants puissent être dans une position de relation confortable avec les enfants, que les enfants soient heureux avec l'éclairage, que aussi que l'établissement soit sécurisé. Alors je cite un exemple de la dépêche du midi. Il y a quelque temps, où on peut dire d'ailleurs que ça se produit assez régulièrement, où le grand titre était « Une école maternelle innovante ». Alors moi, grand naïf, bon, c'est vrai que le sujet m'intéresse, puisque bon, j'ai réalisé ce type de bâtiment, et c'est toujours des questions par rapport à la place des enfants, à la fois l'image du bâtiment et puis le rapport des enfants avec cette architecture, et pour arriver que tout soit, je veux dire, le meilleur souvenir qui puisse rester quand ces enfants vont grandir de leur propre enfance, et aussi que les mettre soient dans une relation qui soit la plus idéale possible. Donc, ça m'intéressait de voir, c'était innovant. Alors l'innovation, c'était qu'il y avait des capteurs solaires et qui fournissaient l'eau chaude. Et puis c'était tout. D'ailleurs, on ne mentionnait pas le nom de l'architecte, et on se limite à un discours sur l'écologie. Alors, je n'ai rien contre l'eau chaude produite par le soleil, mais ça me semble pas la finalité totale d'une école, qu'elle soit maternelle ou que ce soit des bâtiments publics, de quelque sorte qu'ils soient. Alors, il en est du même pour le logement. Aujourd'hui, on va faire des logements avec des cuisines qui vont être pas éclairées, qui vont enfumer tout l'espace à vivre. Mais on aura effectivement des prouesses écologiques sur l'isolation. Mais tout cela est bien beau. Mais enfin, avant tout, il faut hiérarchiser et faire que bien faire se peut effectivement que le bâtiment corresponde à des normes thermiques, on en a déjà parlé, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on y vive bien et que les gens passent une vie heureuse, familiale, des rapports entre les personnes et le bâtiment dans la ville et toutes les relations et de l'importance que cela peut avoir pour une société. Bon, c'est ça qui semble l'essentiel, et effectivement, ce discours, le discours, disons, de cette morale un peu facile, a pris le dessus, et il n'y a plus de jugement par rapport à cela. Donc, vous voyez que ce débat me paraît un peu surréaliste entre, d'une part, une espèce de morale qui doit coller à l'esprit d'aujourd'hui, et de l'autre part, la position de Peggy Sastre, qui est de dire que l'artiste doit être libre, et que toute position qui empêche, on peut dire, toute contrainte, toute censure, est totalitaire. Alors, il est un débat important aussi, c'est le rôle de l'artiste dans la société. Et l'artiste, je suis désolé, mais l'artiste, il est un citoyen et il a des comptes à rendre. Entre lui demander d'être un perroquet qui répète le même discours conformiste, alors évidemment, là, on peut dire qu'on a une pensée totalitaire. mais où tout le monde et toute personne qui serait hors de ce discours-là sera éliminée. Alors peut-être pas physiquement, mais en tout cas éliminée de l'espace social, cancelled comme on dit en anglais, c'est-à-dire éliminée, oui, supprimée sur un plan social. Et mais par contre, réclamer une responsabilité de l'artiste, alors il est évident que si on écrit des libelles, la liberté peut être large puisqu'il n'y a pas de conséquences très graves dans la mesure où c'est l'éditeur qui les prend. Dans le cas d'œuvres publiques, sculptures et peintures qui sont exposées, ben oui, ça devient déjà un propos dans la mesure aussi où c'est l'État qui s'engage à faire les acquisitions. Quand je dis l'État, ça peut être les régions, les départements, les mairies, en fait d'une manière un peu plus large. Et bien sûr, quand on parle donc de l'architecture ou de l'urbanisme, là il ne suffit pas de dérouler un chapelet de bonnes intentions, il faut répondre à des choses tout à fait complexes, et on peut dire, on peut même les hiérarchiser. Alors à ce sujet, les traités qui ne sont pas les traités de morale, ou du moins s'intitulant comme tel, mais qui sont des traités tout de même civique, hein, en tout cas de respecter un métier dans ses relations avec la société. Alors c'est Vitruve avait fait des traités avec des règles et des principes, mais je vous citerai un architecte de la Renaissance qui s'appelle Alberti, et Françoise Chouet, qui était une historienne, a, on peut dire, mis à jour, et dans une traduction du latin, qui était évidemment pas donné à tout le monde de le comprendre, et une explication très lumineuse de ces principes qui étaient repris de Vitruve, où il parlait à la fois comme première vertu firmitas, dont c'était le soliditas de Vitruve. Bon, je n'ai pas besoin de vous traduire, mais c'est qu'un bâtiment, il devait d'abord être solide et durer dans le temps. Donc là, c'était une vertu dont on parle aujourd'hui bien peu. Quand on voit les sinistres qui se passent actuellement en Turquie, où on a des photos absolument ahurissantes, où on voit d'immenses bâtiments qui sont tombés parce qu'il n'y avait pas de fondation et que ça a été fondé sur le sable. J'ai vu qu'un promoteur a été arrêté, on peut aussi arrêter l'architecte et l'ingénieur et l'entreprise. Le firmitas, et c'est effectivement quelque chose de moral, puisque les gens meurent si on n'y répond pas. Alors le deuxième principe, c'était le necessitas, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire qu'un bâtiment, comme je vous disais, une école, elle sert pas à chauffer l'eau des toilettes avec des capteurs solaires, elle sert à l'éducation des enfants et à leur bien-être, donc et à leur sécurité également. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fonctionnel. Et le troisième point, c'est la beauté. Alors, on en revient à ce que disait notre philosophe du début, la beauté de l'œuvre qui est liée à la morale. Et là, justement, ce qui est tout à fait intéressant dans Alberti, traduit par Françoise Chouet, c'est que Alberti, par rapport à Vitruve, ajoute quelque chose de fondamental en hiérarchisant ces trois valeurs, en disant qu'on ne peut atteindre le stade 2, c'est-à-dire celui de la fonction du bâtiment, c'est-à-dire un bâtiment qui correspond à ce pourquoi il a été construit, que si on a avant fait toutes les garanties pour qu'il soit solide, ce qui paraît très sage et surtout ce qui me paraît le plus important, qu'on ne peut atteindre et prétendre à la beauté que quand on aura résolu les deux principes avant. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait parler de la morale, une morale flottante, et aussi, on arriverait à la beauté. Et le propos, c'est morale et beauté. Et là, on a oublié les choses qui paraissent les plus essentielles, c'est le sens d'une œuvre et à quoi elle sert. Et les œuvres, elles ont leur utilité. Et que ce soit des sculptures, ou des peintures, mais même ne serait-ce que être décoratif, c'est une utilité. Et c'est encore mieux quand il y a du sens et de la représentation. Alors effectivement, aujourd'hui, devant les monochromes noirs de Soulages sur lesquels tout le monde dit son émotion, je vois pas très bien quel est le sens, et je vois pas non plus quel est on peut dire l'utilité décorative qui était celle des grandes tapisseries ou de certains ornements dont le rôle était effectivement de réjouir l'œil, ce qui était déjà une chose pas innocente. Alors, quand toutes ces qualités sont réunies, eh bien, ça franchit l'épreuve du temps. Et alors, et c'est là où je voulais en venir, parce que évidemment, c'est inclus aussi dans les propos de notre Alberti, qui était, rappelons-le, à la fois architecte, théoricien, il était également peintre et poète, enfin c'était un homme magnifique de la Renaissance. Et donc, c'est justement ce qui nous intéresse, c'est ce franchissement dans le temps, où même si les intentions du départ, les intentions de l'architecte ou les intentions du commanditaire sont oubliées, l'œuvre demeure et franchit les étapes. Donc la beauté, c'est justement ce qui est universel, ce qui traverse les époques et qui nous parle même si on a oublié le sens premier. Donc aujourd'hui, quand on regarde la sculpture grecque, on est assez éloigné des mythologies qui ne sont plus nos religions et que l'on comprend très mal. Et il en est de même du temple grec qui avait des rôles, avec des imbrications de révélations, le naos, le pronaos, enfin tout un symbolisme rituel qui nous échappe, que nous avons perdu, mais l'œuvre, pour parler par exemple du Parthénon, qui domine la capitale d'Athènes et qui est d'une approche, d'une beauté de proportion, même si s'il a été en grande partie démoli, demeure et franchit les époques et nous donne ce sens de l'humain, de l'universel, et je crois que l'œuvre d'art, c'est cela. Donc, ce débat sur la morale me semblait un débat bien futile et il faudrait lui donner une autre dimension. Je vous souhaite une bonne semaine. De proportion, même s'il a été en grande partie démoli, demeure et franchit les époques et nous donne ce sens de l'humain, de l'universel, et je crois que l'œuvre d'art, c'est cela. Donc, ce débat sur la morale me semblait un débat bien futile et il faudrait lui donner une autre dimension. Je vous souhaite une bonne semaine.